Un condor vole en-dessus de la cordillère des Andes. Vous arrivez à Cajamarca. Vous voyez des milliers d'Indiens qui sont occupés dans cette ville précolombienne de Cajamarca. Des palais, une grande place, des bains, des thermes un peu plus loin. Et puis cette vallée fertile, toute verte. Vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Et là, vous retrouvez l'Inca, Atahualpa, qui est prisonnier de Francisco Pizarro. Vous êtes en 1533 et vous avez déjà reçu la rançon d'Atahualpa, des tonnes et des tonnes d'or. Et finalement, que faire de l'Inca? Ça, c'est la vraie question. Le chef de la région est arrivé devant Francisco Pizarro et lui a dit, il est Curaca, il est grand chef, il lui a dit que Ruminaui, c'était le grand général des troupes d'Atahualpa, allait attaquer cette nuit ces quelques dizaines d'Espagnols qui sont là et qui gardent leur coffre-fort. Certains vont repartir sur la côte, vont rejoindre Panama, vont rentrer en Espagne, riche Hidalgo, même s'il n'était rien au départ, et d'autres, comme Francisco Pizarro, comme ses frères, comme Almagro, désirent partir vers le sud, désirent continuer cette conquête. On ne peut pas rester comme cela des mois, des années en place, sans rien faire. Et on lui dit justement à Francisco Pizarro qu'une armée est en marche contre lui, qu'elle n'est pas loin, qu'elle va attaquer le camp, et qu'on va libérer l'Inca. Donc on va faire enregistrer, ça c'est pour vous montrer à quel point Francisco Pizarro est paperassier, il va faire enregistrer cet acte, cette déclaration par son propre notaire, et il va interroger petit à petit tous les parents d'Atahualpa, certains nobles indiens qui sont là, et puis des indiennes qui vivaient avec les Espagnols, et malheureusement tous vont confirmer le témoignage de ce chef, de ce Curaca, c'est-à-dire qu'il y aurait effectivement des troupes qui seraient massées aux alentours de Cajamarca, prêtes à attaquer les Espagnols. Alors bien sûr que la réaction sera vive, Francisco Pizarro va s'adresser à Atahualpa et il va lui le reprocher très fermement. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas une sorte de conspiration, une espèce d'opposition faite à l'Inca et que tout le monde a peut-être même menti. On va le voir par la suite, il n'y a jamais eu de troupes. Mais enfin, l'Inca comprend qu'il est dans une situation extrêmement sérieuse et que ça va devenir violent, d'autant plus qu'en quelques minutes on décide de le mettre au fer. Et là, les gardes vont être renforcés, on va commencer à surveiller tous les alentours de cette ville de Cajamarca. Je vous l'ai situé tout à l'heure, vous êtes en plein cœur de cette cordillère, vous êtes à des centaines de kilomètres de la côte, vous êtes seul à 12 000 kilomètres de l'Espagne. Et effectivement, on a peur, il y a un état d'alerte. La nuit, on met des patrouilles, il y a 50 cavaliers qui courent dans cette plaine aux environs. Et au petit matin, on a décidé de mettre encore 150 hommes pour surveiller le tout. Enfin, on est prêt à intervenir. Alors, que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est vrai que les nerfs des Espagnols vont être extrêmement tendus dans ce moment. Et là, je pourrais vous dire que la peur est peut-être mauvaise conseillère, c'est vrai. On voit vite, enfin on imagine en tout cas très vite ce qu'on craint ou ce qu'on a peur de voir. Et jamais on a su expliquer exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je suis obligé de faire un petit détour là, en parlant de quelqu'un qu'on a déjà évoqué. Enfin, c'est Hernando Pizarro, qui était l'ami de l'Inca, qui était l'ami d'Atahualpa, qui a essayé de le comprendre, tout comme Soto. C'est les deux Espagnols qui ont vraiment tenté de comprendre qui était ce grand chef Inca, de l'admirer même, d'avoir une certaine amitié, puisqu'ils jouaient aux cartes et aux tric-trac ensemble. Ça, je vous l'ai dit lors d'une dernière occasion. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est que Hernando Pizarro, qui s'opposait dès le départ à toute exécution ou à tout problème avec Atahualpa, va être écarté. C'est là qu'on voit que, malgré tout, là je vous étudie ça un peu comme un historien, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un puzzle avant la mort d'Atahualpa. On ira même peut-être jusqu'à la mort de Francisco Pizarro aujourd'hui. Mais c'est simplement pour vous dire que, lorsqu'on étudie l'histoire, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples que cela. Il faut tenir compte de l'endroit, de la peur, de l'ambiance. Et je crois qu'on va volontairement, et c'est Pizarro qui doit le concocter dans sa tête, écarter tous les gêneurs et tâcher de trouver des témoignages pour pouvoir supprimer cet Inca qui a définitivement trop de pouvoir. Alors, On va essayer de renvoyer tout d'abord Hernando en Espagne. On prétend que c'est très rapide, qu'il faut faire une mission. Enfin, il y a surtout une question d'honneur. C'est-à-dire qu'on veut en fait se débarrasser de lui, c'est vrai, mais on veut surtout qu'il aille voir le roi, qu'il aille voir Charles Quint et qu'il parle un peu de l'or qu'on vient de trouver. Et on va l'envoyer directement à San Miguel où les caravelles l'attendaient. Et il va porter au souverain la première partie de ce qu'on appelle le cinquième, le quint royal. Cette part d'impôt, si vous voulez, qui est le premier lot de tous ces objets précieux et certains qu'on n'a pas fondus, qu'on va justement apporter jusqu'en Espagne afin qu'il soit admiré à la cour. Et il devait ainsi donner surtout une description extrêmement détaillée de cette nouvelle province de l'Empire de Charles Quint, parce que la nouvelle Castille, c'est tellement énorme. Et maintenant, on sait quelles sont les dimensions de l'Empire Inca parce que les Incas commencent à parler. Et c'est vrai que la façon d'écarter Hernando, c'est peut-être aussi une façon de craindre le véritable pouvoir de l'Inca. Je m'explique. C'est-à-dire que on a remarqué dès le départ que les Blancs avaient très peur de cette façon un peu insistante d'Atahualpa, de dire que sans sa volonté, il n'y avait même pas un oiseau dans l'Empire qui était capable de voler. C'est ce qu'il disait sans arrêt. C'est très beau comme image. Ça prouve qu'effectivement, n'importe quel homme, n'importe quel vieillard était vraiment sous la domination de l'Inca. Mais cette autorité, c'était aussi quelque chose de très préoccupant pour ces Espagnols qui sentaient qu'ils étaient un peu l'autre roue du char. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment le maintien du pouvoir dans ce pays. Et qu'ils étaient un peu à la merci d'un prisonnier, ce qui est encore beaucoup plus grave. Et au fond, je crois aussi que ce qui a vraiment fasciné l'Espagnol, c'est la façon dont l'Inca pouvait donner des ordres. C'est-à-dire qu'on prétend par exemple que si on exigeait que quelqu'un se jette, je sais pas, du haut d'un rocher, ou bien qu'il se pende, ou qu'il soit pendu, bah, immédiatement, on obéissait. Ça vous montre aussi pourquoi l'Inca a toujours été soumis et pourquoi il est toujours resté fataliste. Et je dis ça même au présent parce que l'Indien d'aujourd'hui est encore aussi fataliste. Et c'est même assez étrange que je parle du sentier lumineux, que je parle de la politique actuelle d'un pays comme cela. Bien, tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières années nous prouve effectivement que l'Indien est quelqu'un qui réagit très très peu. Il est habitué à ce fatalisme depuis des siècles. Et ça n'a rien d'espagnol, ça n'est pas la difficulté de la vie de ces quatre siècles espagnols qui rendent l'Indien ainsi, c'est déjà son passé précolombien. Et quand je parle aussi de la cruauté des Incas, ça c'est quelque chose, on essaie toujours un peu de les mettre en avant, de dire que c'est vraiment l'Inca qui était le meilleur. Il y a une légende un peu dorée comme ça, tout comme il y a une légende noire contre l'Espagnol. Ben, je vais vous donner simplement un épisode qui me paraît très caractéristique de ce que l'Inca était capable de faire. Il va envoyer par exemple son frère. Son frère, on en a déjà parlé, il va l'envoyer à Quito pour essayer de soumettre Huminahui, puisqu'en fait il a déjà eu quelques ennuis dans cette province, et il a certainement peur que il a certainement peur qu'on reprenne le pouvoir sans lui, à quelque part. Et là, son frère va donc monter vers le nord et il va être convié par Huminahui, donc le grand général, celui qui a aidé Atahualpa, dans un palais, et Illescas, c'est le nom du frère, tous ses capitaines vont être invités à un festin. Alors vous voyez la scène, hein, c'est un peu romain comme allure, tout le monde boit, il y a de la chicha, et quand ils ont été complètement ivres, ils vont être massacrés les uns après les autres. Et le grand général de l'Inca va faire écorcher le propre frère de l'Inca, et avec sa peau, à laquelle se balançait une tête réduite, parce que vous savez qu'on était capable de réduire une tête en enlevant l'intérieur, en enlevant la cervelle bien sûr, mais aussi les os, et ensuite on mettait du sable chaud à l'intérieur, ça rétrécissait la peau, et ensuite on bouchait tous les trous pour que le pouvoir de ce prince reste à l'intérieur, et avec la peau complète du corps, eh bien Huminahui va se faire fabriquer un tambour et tendre cette peau dessus. Ça vous montre un tout petit peu la cruauté de ces gens-là. Oser faire assassiner le frère de l'Inca, quand c'est l'Inca lui-même qui l'envoie pour vous punir, pour vous remettre en place, ça vous montre que le pouvoir n'était pas une chose aussi simple que cela dans cet empire Inca. Il y a un côté un peu, il y a une sorte d'imbroglio, ça je crois que c'est la première chose qui nous vient à la tête, mais je vais vous parler maintenant d'un autre aspect très intéressant, le côté magique des choses, parce que comme pour le Mexique, il y a eu des présages, il y a eu une chose à peu près 20 jours avant la mort d'Atahualpa. À la tombée de la nuit, en buvant de la chicha, il a vu soudain en direction de Cusco une vive lumière dans le ciel, une sorte d'éclair un peu trop brillant. Il n'y avait rien, le ciel était bleu, il a eu très peur, il savait qu'il allait mourir comme son père. Les Indiens sont comme cela, la magie, la sorcellerie, les présages. Atahualpa était déjà prêt à être pendu. Thank you. parle d'incidents, puisque je parle de petits détails comme ça qui vont s'accumuler autour de la tête d'Atahualpa, je pourrais parler de Felipillo. Felipillo, c'était un jeune garçon qui était devenu l'interprète lorsqu'on l'avait trouvé sur un radeau en plein milieu du Pacifique et qui avait très vite appris l'espagnol. Et qui, un peu comme la Malinche au Mexique, va tromper un peu ses semblables, va petit à petit prendre un certain pouvoir. Et il a fait quelque chose qui va beaucoup toucher l'Inca. Il va tomber amoureux d'une des femmes de l'Inca. C'est-à-dire que l'Inca, prenez le cas du père d'Atahualpa, il a eu certainement à peu près 2000 enfants. Ça vous prouve simplement qu'il y avait quelques femmes à disposition pour l'Inca. Toutes les femmes choisies, toutes celles qui étaient dans ces fameux couvents de jeunes femmes. Eh bien, le fait de tomber amoureux d'une vierge du soleil, ou d'une princesse, ou d'une favorite, d'une femme de l'Inca, c'était vraiment un crime absolument incroyable. Et l'Inca s'est véritablement fâché. Et il a décidé même qu'il fallait punir Felipillo. Or, Pizarro va protéger son interprète, c'est normal. Mais pour lui, c'était quelque chose de beaucoup plus grave que tout ce qu'on lui avait fait jusqu'à maintenant. C'était vraiment l'affront absolument insupportable, et il était en captivité, d'accord, mais il était prêt à perdre sa vie simplement pour qu'on lave cet affront. Et je vous explique ce qui se passait normalement. Parce que pour un tel crime chez les Incas, les lois normales prévoyaient que le coupable, je sais pas, par exemple, ou la femme, hein, si elle était reconnue complice, c'est-à-dire tous les deux éventuellement, seraient brûlés vifs, et ça c'était obligatoire, que les parents, les frères, les sœurs, toute la famille serait supprimée carrément du monde des vivants, et qu'au fond, le village lui-même d'où il venait serait rasé, que les arbres seraient entièrement supprimés, arrachés, si vous voulez, afin de, que la demeure, enfin, tout ce qui pouvait exister dans l'endroit, ce souvenir de l'endroit où avaient vécu cette ou ces deux personnes, soit totalement supprimé. C'est quelque chose de terrible, c'est un châtiment effroyable. Donc vous imaginez que tout à coup, on peut tuer 500 ou 1000 personnes simplement pour avoir osé regarder une Vierge du Soleil. Alors, il est simplement accusé par Pissard, mais il ne sera absolument pas puni, Felipillo. Donc voilà encore un petit détail. Et puis on rapporte une autre chose dans ces mêmes semaines à l'Inca, c'est qu'il y a une nouvelle attaque, un nouveau danger dans le sud. On prétend que depuis la région de Pachacamac, on en a beaucoup parlé, de ce temple qui se trouve sur les plages en dessous de Lima, là on prépare une attaque depuis le sud. Et bon, ben, il faut contrôler la chose. Alors Pissard, très subtilement, va envoyer le deuxième ami de l'Inca, Soto. Soto qui va être envoyé sur la côte pour contrôler la chose. Et il va partir, et malheureusement, une fois qu'il sera dans cette région, ils vont continuer tout seuls. Il y a une chose très importante, le guide qui les accompagnait va se suicider. Ça, c'est assez étrange. Il va se jeter du sommet d'un rocher et il va disparaître. Ils devront reprendre cette route absolument seuls et arriver sur la côte, mais malheureusement, lorsqu'ils rentreront, la tragédie sera déjà terminée, l'Inca sera déjà mort, il aura déjà été accusé de trahison. Alors, quand ils reviennent à Cajamarca, on prétend, en fait, le même jour, c'est un samedi, si ma mémoire est bonne, les Indiens arrivent dans la ville, ils ont une émotion extrêmement forte, parce que on raconte qu'il y a encore des rebelles qui sont prêts à attaquer, et là, alors, obligatoirement, on retourne vers le prisonnier, et bon, on sait que tous ces récits étaient faux. On va le voir quand Soto va rentrer. Il va dire que la côte était absolument paisible. Mais enfin, ce sont des raconteurs qui, petit à petit, font monter la sauce, et Pissard, ben, contre son gré, c'est ça qu'il voulait, en fait. Il va devoir condamner cet Indien, ce grand chef Inca, à mort. Et Pissard, bon, il avait des raisons politiques, ça vous le comprenez. Il avait certainement l'intention de tuer l'Inca. Alors, il y a une sorte de réunion qui se fait entre Almagro, qui est quand même le deuxième chef, et Francisco Pizarro. On va réunir un tribunal et on va convenir à l'unanimité d'accuser, en fait, Atahualpa, d'abord du meurtre. C'est intelligent, ça, le meurtre de son frère, vous vous rappelez de la mort de Huascar, il a fait assassiner son frère, et ça c'est vrai, et puis de cette tentative d'attaque contre les Espagnols, et puis peut-être même, on va certainement l'accuser, c'est une chose beaucoup plus religieuse, beaucoup plus magique une fois de plus, on l'accuse de coucher avec sa propre sœur, parce que dans le rituel Inca, il était normal que l'on épouse, un peu comme en Égypte, que l'on épouse sa propre sœur, comme dans l'Égypte ancienne. Alors on sait qu'il y a 24 juges, on sait qu'il y en a 13, on connaît même leurs noms qui vont prononcer la peine de mort, donc ce n'est pas une grande majorité. Ça, vous le comprenez. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement délicat dans cette accusation. Et là, l'acte et les signatures ont disparu, ça, il faut vous l'avouer, mais le verdict est prononcé et on décide que la mort se ferait par strangulation et après quoi on allait brûler le corps. Alors, ça, c'est quelque chose de terrible. On n'a aucune idée de ce que ça représente. Parce que brûler le corps, ça veut dire qu'il y a eu inceste, par exemple. Je pense que là, on retrouverait peut-être cette accusation par rapport à la sœur. Mais chez les Espagnols, il y aura une réaction très vive, mais essayez de penser surtout à la façon dont l'Inca va réagir. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que pour lui, brûler son corps, c'est le faire disparaître à jamais. Et il va accepter d'être baptisé, afin d'obtenir une mort un peu plus noble, simplement celle du garrot, et que son corps reste entier. Il y a un côté très tragique dans cette fin. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on aurait pu très bien, certains Espagnols pensaient qu'on aurait mieux fait de l'envoyer en Espagne, qu'on aurait pu le juger directement en Espagne, et que ça aurait été beaucoup plus clair et beaucoup plus précis, ou carrément qu'on l'enferme en Espagne. Mais tuer un roi, tuer celui qui a payé sa rançon pour sa libération, ça a quelque chose d'assez louche. Et pour apaiser la conscience des Espagnols, pour apaiser la conscience surtout de Francisco Pizarro, on va tenter d'élargir, comment l'appeler, la pyramide en fait des responsabilités pour atténuer toutes les critiques qui pourraient arriver, qui peuvent être très graves, parce qu'après tout, si la couronne d'Espagne avait accusé Pizarro, il pouvait effectivement disparaître. On le verra plus tard, beaucoup de ces Espagnols vont finir dans des cachots simplement accusés de crimes. Et au fond, il va même se faire appuyer, et ça c'est encore très propre à Francisco Pizarro, par le prêtre, le fameux prêtre qu'on connaît depuis le début de l'attaque, Fray Vicente, qui va naturellement donner son accord. Donc il a l'accord de l'Église, il a l'accord de Rome, et à partir de là, ben, le sort de ce souverain est scellé, on va transmettre la sentence au prisonnier, et exactement comme au moment où il a été capturé, Atahualpa, il y a un premier moment d'émotion, il va perdre peut-être un peu sa maîtrise, cette maîtrise qui lui est si coutumière, mais ses yeux, ça on le sait par témoignage, on sait que ses yeux vont se remplir de larmes, et il reproche amèrement à Francisco Pizarro d'avoir pris l'or et de ne pas avoir tenu parole. Il demande au gouverneur de prendre sous sa protection ses femmes, ses enfants, et puis il se prépare à cette chose totalement inévitable. On lui a promis de ne pas brûler son corps, donc il s'est fait baptiser, comme je vous l'ai dit. Il donne son consentement et Fray Vicente de Valverde va lui donner le dernier sacrement avant son départ pour l'autre monde. L'Inca avait dit à ses femmes que si les chrétiens ne brûlaient pas son cadavre, il reviendrait. Il reviendrait sous la forme d'un serpent qui siffle. Hâter d'exécuter ce jugement avant le retour de Soto qui est parti sur la côte, avant qu'il revienne avec sa patrouille. Et vous voyez cette fin de journée, vous êtes toujours à Cajamarca, le jour décline, c'est un samedi, c'est exactement l'heure où, à peu près 10 mois auparavant, Atahualpa avait vécu, l'effondrement de sa puissance, de sa grandeur sur cette même place, au moment où il avait été arraché de sa chaise à porteur. Et de nouveau, cette place était remplie de tous ces Indiens. Ils attendent muets, il y a un événement qui les dépasse complètement, il y a une portée aussi qui leur échappe complètement. De nouveau, le soleil descend, il décroît, et on sent cette nuit qui arrive. Et pour ces Indiens, ça a dû être un moment très fort de savoir que le vrai soleil se couchait et que le soleil vivant mourait à cet instant-là. Maintenant, il marche vers la mort, il est digne, il est assuré, Atahualpa est au milieu de cette foule, il y a des rangs serrés. Et en voyant le prince, les Indiens, il y aura des plaintes, il y aura des cris extrêmement sauvages, il y a une puissance dans la réaction, et les gens se laissent tomber sur le sol, ils restent inanimés. C'est exactement comme quand Huayna Capac était mort, comme quand Huascar était mort. et les roulements de tambour qui couvrent la place, tout cela s'assombrit à cette sentence de mort, par strangulation, cette exécution, ce poteau. Vous savez qu'à la mode espagnole, on appuie la personne contre ce poteau et qu'on l'étrangle par derrière. Et 2 heures après le coucher du soleil, vous êtes le 29 août, nous sommes en 29 août 1533, le dernier Inca est mort. C'est vrai que maintenant l'empire de Tahuantinsuyu a véritablement pris fin. C'est vraiment la fin d'un temps et je crois que ce qui va suivre, c'est assez touchant, ce sont ces scènes de tristesse, ces scènes où l'on voit que chaque fois qu'un prince indien, un roi, un empereur meurt, il y a des femmes, il y a des serviteurs qui vont disparaître à leur tour. C'est-à-dire que beaucoup vont se pendre, ils se jettent du sommet de certaines falaises, les femmes s'étranglent avec leurs propres cheveux, ce sont des témoignages que nous avons. Et on suit ainsi le mort dans sa tombe, il y a une supplication aussi qui est faite devant les Espagnols. On veut être enterré avec Atahualpa. Et c'est une véritable orgie de mort qui suit. Et au moment des funérailles du père d'Atahualpa, je crois vous l'avoir raconté, il y a eu ces 2000 kilomètres avec ses plaintes, depuis Quito jusqu'à Cusco. Ce cortège incroyable où l'Inca était momifié sur sa chaise à porteur et les gens continuaient à mourir en route, à vouloir se suicider en route pour leur soleil qui maintenant était au déclin. C'est vrai que... On va devoir prendre véritablement les armes. Les Pissar et ses hommes vont devoir parcourir tout le pays pour faire arrêter ces suicides et cette espèce de danse macabre. Et à la fin d'Atahualpa, on comprend bien que l'atmosphère va changer radicalement. C'est-à-dire qu'on, mettez-vous à la place des Espagnols, tout le monde va se sentir coupable. On se sent tellement mal parce que le lendemain, on va faire exactement ce qu'on fait toujours chez les Espagnols. C'est-à-dire que n'oubliez pas que ce sont des chevaliers. Maintenant qu'il est mort, on peut lui rendre les honneurs. Donc on va enterrer Atahualpa dans l'église de San Francisco, lui-même portant ce nom, dans cette église qui porte le nom du conquérant, qui se trouve maintenant au cœur de la grande place de Caramarca. On vient de la construire. Il y a un requiem solennel qui va être chanté pour lui. Et exactement comme pour un prince chrétien, ne l'oubliez pas, il vient d'être baptisé et Atahualpa est donc mort. Avec ce côté fabuleux qui va peut-être même l'emporter au paradis des chrétiens, ça paraît incroyable. Et en tête des officiers, vous retrouvez Francisco Pizarro dans son uniforme de gala. Cet uniforme qu'il a fait mettre dans ses caravelles et qu'il a apporté sur un cheval et qu'il met uniquement pour les grandes occasions. Il n'est plus en armure, il se met en uniforme noir de gala. Et l'honneur, en fait, d'un homme, ça méritait peut-être plus de respect que sa vie elle-même, ça vous le comprenez. Et ils vont prendre la vie de l'Inca, mais ils vont, je crois, d'abord sauver un peu sa dignité. Ça, c'est très espagnol. On peut leur pardonner, on peut les comprendre, car peu de jours après la mort d'Atahualpa, Soto va revenir de son inspection. Et Pissar, il va l'apercevoir comme cela en vêtements de deuil, pour marquer sa douleur. Et Soto, il va réagir très mal. Et il va dire qu'en fait, il n'a rencontré absolument personne en armes dans le pays, que tout était calme, que tout le monde vivait en paix, et qu'il aurait dû... au lieu de le tuer comme cela à Caramarca, qu'il aurait dû effectivement l'envoyer en Espagne et qu'il n'aurait jamais donné son accord pour une telle mort et que tout serait bien arrivé, il aurait même pu l'accompagner éventuellement. Et Pissar est tellement subtil qu'il va lui répondre « je vois qu'en fait je me suis peut-être trompé, c'est vrai, j'aurais peut-être dû l'envoyer en Espagne. » Maintenant qu'Atahualpa et Huascar sont morts, vous comprenez tout à coup, il y a un vide. Replacez-vous. Vous êtes toujours dans les Andes, vous êtes toujours face à ce pouvoir inca qui maintenant manque, et il y a des conséquences, bien sûr. Malgré la facilité avec laquelle vous avez réussi à arriver à Caramarca, à prévoir cette campagne militaire, je crois que l'avenir n'est pas aussi clair que cela. Alors il faut effectivement maintenant trouver un fantoche, une sorte d'otage, et on va effectivement prendre un des fils de Huascar, et on va le faire héritier, c'est-à-dire qu'on va le rendre, on va lui donner le pouvoir, il va prendre le nom de Manco II, et on va partir maintenant vers le sud, on va prendre, imaginez-vous, vous partez de Caramalca vers l'inconnu, il n'y a que trois hommes qui ont été à Cusco et qui en sont revenus, vous prenez cette piste Inca, cette magnifique voie royale, non seulement empierrée, mais revêtue d'un mortier extrêmement solide, qui est jalonné par tous ces tampous, vous franchissez les montagnes par une suite de plans inclinés, de rivières, de ponts suspendus, et vous arrivez, sans encombre, à la ville sacrée, au début de cet hiver 1533. Un an après, cette inquiétude qui vous avait pris au ventre comme ça à Caramalca, vous vous retrouvez au moment d'une fête. Oui, ces sauvages sont en train de faire une fête à Cusco. Vous arrivez devant le Coricancha. Et là, dans ce temple du soleil, c'est le délire. Il y a encore de l'or à l'intérieur des édifices. De l'or à l'extérieur, l'or des momies, l'or des sièges. Il y a de l'or partout. Après une brève bataille, vous pourrez piller. Vous pourrez prendre tout ce que vous voulez. Vous pourrez répartir le butin. Et le plus modeste des combattants, qui est reparti avec Pissar, se voit une fois de plus riche, comme le, je sais pas, le plus haut seigneur de Castille. À Cusco. Vous commencez à démolir certains palais, mais attention, vous laissez les bases, vous laissez les rues, vous laissez la souricière telle qu'elle est. Vous vous rendez bien compte, comme Pissarro, que cette ville est un immense jaguar. Il y a une forteresse incroyable sur le sommet, il y a deux rivières qui forment le corps du jaguar et cette queue qui se termine et qui s'appelle encore aujourd'hui la queue du jaguar. Et au centre, vous avez ces bâtiments parfaits, ce temple du soleil qui est le sexe du jaguar. Vous avez la grande place où il y avait le temple de Viracocha, où on se retrouve pour les grandes fêtes. Enfin, tout cela, l'Espagnol le découvre maintenant, il se rend compte qu'il est dans le nombril du monde, au centre du monde. Et on utilise Manco numéro 2 en lui faisant jouer son rôle un peu humiliant. Mais attention, un beau jour, il se réveille, Manco, et il décide de ne plus suivre l'idée de l'Espagnol. Il ressent maintenant ce côté noble, il est un peu, on pourrait dire, appelé par ses ancêtres, et il décide qu'il ne veut plus rester captif. Tout à coup, il arrive à déjouer la surveillance des frères de Pissarro, qui étaient chargés naturellement de le garder, et il va s'échapper de son palais de Cusco avec une volonté absolument farouche de reconquérir tout son héritage, c'est de reprendre tout le Tahuantinsuyo, les quatre parties du monde. Il s'enfuit et petit à petit, il arrive à soulever toute la Sierra. Vous voyez la scène ? Vous êtes une fois de plus enfermé dans une souricière, ça c'est vrai, et vous vous trouvez maintenant avec 100 000 guerriers autour de vous. Bientôt, vous allez sentir qu'il marche sur Cusco, et vous allez vous retrouver en face de gens absolument déterminés cette fois, et non plus des gens qui refusent d'obéir parce que l'Inca ne donne pas d'ordre. Non, non, là, la garnison espagnole se trouve exactement face à quelque chose qu'elle n'a jamais subi depuis l'arrivée au Pérou. C'est les Indiens qui montent à l'assaut et qui vont lancer une pluie de flèches, des flèches naturellement allumées, ces flèches incendiaires qui vont maintenant embraser la ville. Tout Cusco va brûler. On n'avait rien détruit véritablement, on avait utilisé Cusco, mais maintenant tout flambe, il n'y a que ces murs de pierre ouvragés qu'on voit encore comme touristes aujourd'hui lorsqu'on se promène dans les rues de Cusco. On devine encore sous la colonie ce monde précolombien, ce côté extrêmement solide, fort de la construction. Et pendant des mois, les adversaires vont s'acharner pour essayer de prendre la tête du jaguar dont je vous parlais tout à l'heure. Cette fameuse forteresse de Sacsayhuaman avec ses 3 degrés, avec ses 3 fabuleuses murailles où certaines pierres ou certains blocs pèsent plus de 120 tonnes. Et là, on va se battre pendant des semaines. Et il y a un raid nocturne finalement. Hernando Pizarro va réussir à s'emparer et à repousser tous les assauts autour de Sacsayhuaman. Et au cours de ce dernier assaut, malheureusement, une pierre d'un de ces hommes, enfin des frondeurs, vous savez que les Indiens, les Incas en particulier, maniaient fort bien la fronde, on va abattre le jeune frère Juan qui reçoit une pierre en plein sur sa tempe, et on arrive quand même à repousser ces guerriers incas. Et au moment où ils perdent la forteresse de Sacsayhuaman, une fois de plus on les voit se jeter dans le vide du sommet des murailles. La légende court encore aujourd'hui à Cusco que le dernier grand chef, le grand général inca, est également mort de cette façon, qu'il s'est suicidé volontairement parce qu'il a perdu la tête du grand jaguar. C'est très beau, c'est très symbolique, mais dans le camp de Manco, malheureusement, au moment où on aurait pu réagir, parce qu'on est déjà en train de reprendre l'attaque, on va reprendre Sacsayhuaman, il ne manque que quelques heures, quelques jours au pire, les vivres commencent à manquer. Et quelque chose d'incroyable se produit. C'est juste la date qui correspond à l'ouverture des travaux agricoles, le début des semailles, le début de cette saison agricole. Et l'Inca doit lever le siège, car la guerre ne peut pas continuer et on ne pourra pas, en fait, refuser à tout l'Empire ce moment des semailles. Donc c'est incroyable que pour des questions alimentaires, les Indiens vont perdre cette guerre. La seule qu'ils auraient pu vraiment gagner, ou ils auraient pu en quelques jours, en quelques semaines, supprimer l'Espagnol. On se replie, on est encore redoutable, hein, on est encore fort, et pourtant on se replie, et on va gagner les derniers refuges des Cordillères. Et là on peut rêver ce qu'on appelle la Sierra de Vilcabamba. On va peut-être se retrouver à Machu Picchu. On va peut-être occuper ce site. Le dernier recours pour ces Incas, c'est de partir du côté de l'Amazone. Vous vous voyez au pied de ce pic, avec cette dernière cour incroyable, les quelques vierges du soleil qu'on a réussi à sauver, et effectivement toutes ces troupes qui suivent le dernier Manco, le dernier Inca. Alors, est-ce que c'est là-bas qu'on va les retrouver ? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, on cherche encore la véritable Vilcabamba, on cherche encore cette ville légendaire où il y aura encore des trésors incroyables. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes depuis le XVIe siècle à la recherche de trésors. Or, certains ont trouvé 2000, 3000, 4000 kilos d'or et sont devenus riches en quelques minutes. C'est vrai, il y a des églises entières qui ont été offertes par un seul homme parce qu'on sait qu'il a retrouvé une tombe, une momie, un trésor. Mais on sait aussi que ce dernier Inca va être suivi par un Espagnol. Un Espagnol qui est peut-être un déserteur ou peut-être un prisonnier, on ne sait pas très bien, mais un Espagnol est dans le cœur de cette retraite. Au cœur de cette retraite, et là, on pense que Manco, parce que l'Indien est toujours comme ça, va le recevoir selon l'antique coutume, c'est-à-dire qu'il va lui donner asile, bien sûr, protection, et le dernier malheur, le dernier outrage, c'est que cet hôte espagnol va véritablement poignarder le petit-fils du grand Huayna Capac. Il n'y aura plus d'Inca digne de ce nom. La nuit et le silence, cette fois, c'est vraiment une façon d'ensevelir, de faire taire le Tahuantinsuyo. We'll be right back. français maintenant des Espagnols. Mettez-vous à leur place quelques instants. Bon, on vient d'assassiner Manco. Bon, on a tout fait. Il y a eu des rêves incroyables, il y a eu ces descentes sur le Pacifique, ces remontées vers Panama, il y a eu tous ces périples, il y a eu ces épuisements, et puis surtout ce fabuleux butin. Certains le portent encore avec eux, certains le dépensent, on a acheté du pain, on a acheté de l'alcool avec des morceaux d'or, on donnait des fois deux ou trois fois la part. À Cusco, les échanges étaient incroyables, l'inflation était démesurée, le monde entier vivait l'inflation. Une gazette de Lyon en 1534 parlait de l'inflation dans le monde, un peu comme on en parle aujourd'hui. C'est vrai que le trésor d'Atahualpa, c'est une bombe dans ce 16e siècle. C'est la découverte d'un capital et d'un pactole qu'on n'avait jamais pu supposer possible auparavant. On fait exploser toute l'économie européenne. Et puis là-bas, au Cusco, bah bien sûr qu'on va, on va utiliser cet or, cet argent, ces perles, toutes ces émeraudes. Mais il y a encore des frontières qui sont totalement insaisissables. On ne sait pas très bien où on est. On a obtenu des femmes par centaines. C'est vrai qu'on pouvait violer n'importe qui, qu'on pouvait obtenir n'importe qui pour n'importe quoi. On est tous possesseurs d'esclaves, mais on ne connaît même pas le nombre de ces esclaves et le nombre de ces Indiens qui peuvent maintenant travailler pour nous. Bon, on sait que l'empereur a reconnu des droits sans partage au grand chef, à Pissard, par exemple, qu'on a donné des titres à tout le monde, c'est vrai que ça fait rêver tout le monde. On murmure ces titres à l'oreille. Vous imaginez être simple soldat et savoir que quelqu'un qui un jour a gardé, je ne sais pas, des pourceaux en Espagne, qui est un enfant qui était abandonné au pied d'une église, comme Almagro, comme Pissarro, qui était certainement un demi-orphelin, enfin en tout cas un bâtard, et tout à coup savoir qu'il a un titre, qu'il est vraiment le roi sur place et qu'il a la moitié de l'Amérique du Sud à ses pieds. C'est vrai que pour eux, c'est des choses qui font rêver. Mais quand il y a autant de force, autant de pouvoir, autant de richesses, après tout, c'est le début de la Renaissance, c'est l'idée de Machiavel qui arrive. C'est vrai que cette évolution, ça va créer petit à petit des intrigues, des guerres civiles, des crimes, et vous allez le voir, la fin est terrifiante. La fin de cette conquête est quelque chose qui paraît, je sais pas, une tragédie, c'est encore gentil, c'est vraiment quelque chose qu'on rêverait d'écrire. Et au fond, qui sont nos hommes là? On a parlé beaucoup de Pissarro, mais il y a Almagro aussi. Almagro, il a un peu vieilli. Je vous disais que Pissarro a commencé la conquête à 52 ans. Il va mourir, si j'ai bonne mémoire, à 66 ans. C'est véritablement un vieillard pour cette époque. Au XVIe siècle, arriver déjà à 52 ans, c'était fantastique. Mais commencer sa vie à 52 ans et conquérir la moitié du monde à 52 ans, c'est de la folie. Almagro, il est vieux, lui. Ça, c'est son compagnon, c'est son ami du départ. Lui, il a des prétentions, parce qu'il a toujours estimé qu'il n'avait pas reçu assez. Et Almagro, il veut Cusco. Cusco, c'est une perle. Cusco, c'est la véritable capitale du monde, même si plus tard ce sera Lima grâce à Pissarro. Donc, il désire cette ville et il exige même qu'il faut la soumettre. Hernando, Gonzalo, qui sont des Pissarro, refusent de la donner, bien sûr. Alors là, il y aura un coup de force. On va mettre ces deux frères en prison, c'est Almagro qui réagit violemment, et on va ensuite vouloir affronter Francisco Pissarro. Là, vous voyez déjà un peu ce qui se dessine. Tout à coup, vous avez des almagristes et des pissaristes. C'est la tragédie qui commence. Le Pérou va se déchirer. Maintenant, mettez-vous dans l'œil ou dans la peau d'un Indien et regardez pour la première fois des Espagnols s'écharper. C'est ce qui va se produire parce que, immédiatement, Almagro se met en tête d'une colonne avec des partisans. Dans ses rangs, il a fait enfermer, ça vous le savez, Hernán Pissarro, comme une sorte d'otage. Il l'a pris comme otage. Et les deux vieux compagnons vont se retrouver face à face. On est prêt à se battre. Quand même, on a été amis de toujours. On a monté toute cette affaire ensemble. Il y a un moment d'émotion. Alors Almagro, écoute, Pissarro lui dit, tu vas rester gouverneur de Cusco jusqu'à ce que l'empereur, parce qu'après tout, en Espagne, on peut trancher. Et on pourra dire si, en se prononçant clairement, si tu as ou tu n'as pas Cusco. En attendant, je te laisse ce gouvernement. Tu vas d'abord me faire plaisir. Tu vas libérer Hernando Pissarro, parce qu'après tout, c'est mon frère. Et on va tenter de l'écarter, d'accord. Il va se faire oublier, je le renvoie en Espagne, et on va le laisser en exil. Bon, ce sera quelque chose de confortable, mais enfin, on le renvoie, d'accord. Alors, malheureusement, il y a un émissaire, juste à ce moment-là. Vous voyez que il y a ce côté tragédie. On a l'impression qu'on est sur une scène de théâtre, vous êtes près de Cusco, là, et voici justement qu'un émissaire apporte la nouvelle en disant qu'Almagro a été trahi, parce que Gonzalo, celui qui est resté à Cusco et qui était prisonnier, s'est échappé. Il s'est échappé de sa prison. Il a rassemblé ses fidèles. Donc, vous voyez que systématiquement, les Espagnols se coupent en deux. Et qu'il est décidé à tirer sa vengeance. Et il proclame tout simplement qu'il faut assassiner Almagro. Donc, on demande maintenant la tête de ce vieux conquérant, de ce vieux conquistador. Bon, obligatoirement, on va se quitter. Et là, on se rend compte qu'Almagro quitte Francisco Pizarro et qu'ils ne se reverront certainement plus. Bon, c'est un drôle de sentiment, mais cette marche forcée qui va le ramener vers ce qu'il appelle déjà son domaine, ou encore son domaine, c'est-à-dire Cusco, ben, va malheureusement mal se terminer parce qu'il a perdu son otage préféré. Il a donné maintenant Hernando Pizarro. De l'autre côté, il a un ennemi qui est libéré, qui était son deuxième otage. Et finalement, il reçoit en même temps un courrier de l'empereur qui lui déclare cette décision, c'est que Cusco appartient définitivement au camp des pizarristes. C'est-à-dire qu'Almagro n'a plus rien devant lui. Il va vers une ville qui ne lui appartient déjà plus. Et malheureusement, il refuse cette ordonnance et il va devoir subir l'assaut de Francisco Pizarro et d'Hernando Pizarro, qui, au lieu de repartir en Espagne, va attaquer maintenant Cusco et chasser le conquistador rebelle. Alors, je vous décris juste là. C'est la première fois que ça se produit au Pérou. Vous avez 800 hommes qui sont du côté des Pizarro. Il y en a 600 du côté des Almagristes. Et vous imaginez ce choc maintenant dans cette plaine. C'est une plaine que j'aime beaucoup. La plaine de Salinas, elle est très fertile, elle est superbe. Vous êtes à quelques kilomètres de la grande capitale. Tout ce qui est autour de Cusco est un peu magique. Hein. Toutes ces vallées sacrées, celles qui descendent vers Machu Picchu, tout ce qui ramène vers les hauts plateaux avant de partir vers Titicaca. Là, on sent qu'il y a quelque chose de confortable. Ce sont presque des oasis. D'ailleurs, certaines de ces vallées ou certains de ces sites appartenaient totalement au soleil et à l'Inca. C'est-à-dire que ce n'était même pas à la disposition du peuple tellement le maïs est gros. Je sais pas, lorsqu'on visite Pisac, par exemple, on voit des grains de maïs qui font 4 à 5 cm de hauteur, je ne vous mens pas. C'est vraiment, à 3800 mètres d'altitude, un paradis. Il y a quelque chose d'assez curieux. Et au fond, cette plaine de Salinas, c'est le lieu du choc. Et là, bah, bien sûr que du côté de Pizarro, il y aura des troupes extrêmement bien préparées. Et il y aura quelqu'un qui nous intéresse pour la suite de l'histoire, de la conquête de l'Amérique, c'est Pedro de Valdivia, qui est un des plus grands chefs. C'est lui qui va aller jusqu'au bout du Chili. Regardez une carte et partez du Pérou et continuez jusqu'au bout du Chili, dans ces terres désertiques, que vous verrez que c'est un grand conquérant aussi, ce Valdivia, qui va fonder Santiago de Chile. Donc, sur les hauteurs, vous placez maintenant tous ces Indiens qui regardent. Ils observent, ils sont stupéfaits parce qu'ils s'imaginent que c'est quelque chose d'aberrant. Il voit bien que ses frères ennemis qui s'entretuent pendant plusieurs heures, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer auparavant, bien sûr. La fin est un peu indécise, mais c'est quand même Pizarro qui a plus d'arquebuses, qui a plus d'armes, de munitions surtout. Et l'arme blanche devra céder devant cette puissance des armes à feu. Et finalement, c'est fini. Les troupes d'Almagro vont chercher refuge dans une sorte de dispersion générale. Tout le monde part en courant. Et le vieux conquérant, il sera garrotté sur un mulet. C'est comme ça qu'il va faire son entrée à Cusco. On va le jeter en prison. Il sera terriblement, terriblement atteint dans sa dignité. Il va être jugé promptement. On va l'accuser de sédition, de haute trahison. Et comme tout le monde, comme chaque fois, il est condamné à mort. Il est étranglé sur la place de Cusco, le bourreau lui tranche le col et il présente la tête à la foule. 15 ans auparavant, Pizarro et Almagro, totalement incertains de l'existence même de ce Pérou, s'engageaient à la vie et à la mort comme de grands amis. 6 ans se sont écoulés depuis Cajamarca. Vous êtes en 1538 et durant ces 3 dernières années, les pizarristes et les années qui suivront vont persécuter les almagristes. En attendant l'heure d'une possible revanche, on va se rassembler autour de quelqu'un de nouveau, Almagro el Mozo. Qui c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fils de celui qu'on vient de tuer, le grand vaincu, ce fils qui va lui-même se venger. We'll be right back. encore quelqu'un qui disparaît. Et Almagro El Mozo, qui est donc le fils de celui qui vient de mourir au Cusco, celui dont je vous décrivais la fin tragique, il espère effectivement pouvoir se venger. Mais les Pizarros sont vraiment les chefs actuels, parce que on sait que Francisco ne désirait pas la mort de son ami, mais comment est-ce qu'il fallait faire? C'était impossible de faire autrement. Tout avait été accompli pour lui. Bon, il y a du remords. Depuis le début, il doit avoir des remords, cet homme. Ben, il essaye de tout oublier. Et comment est-ce qu'il va le faire? Ben, dans une vieillesse qui maintenant s'annonce bien, parce qu'il est riche, il est le personnage central du Pérou. Il a 60 et quelques années. Bon, il oublie un peu les armes. Là, il a décidé d'arrêter la guerre. Et il va maintenant décider au contraire de bâtir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À partir de 1536, c'est l'année de fondation de Lima, Pizarro va travailler sans cesse pour cette nouvelle capitale. Il va décider que cette ville sera la plus belle de toute l'Amérique. Et il y arrivera, c'est vrai. Quand on imagine cette ville de Lima au 16e, puis ensuite au 17e, au 18e, chaque fois j'ai envie de donner une coupure parce que chaque fois il y a un tremblement de terre et tout tombe. Mais c'est vrai que ça a été la ville la plus démente de l'univers. C'est vrai que quand Drake en 1500, là je ne me rappelle plus, 1575 je crois, a refait un tour du monde après celui de Magellan, le deuxième tour du monde pour attaquer Lima, il est tombé devant une ville d'une opulence incroyable. Il a pu la piller sans aucun problème. Au XVIIIe siècle, quand on parle de la noblesse de Lima, par exemple, quand on parle de ces femmes voilées cachées derrière leur moucharabier, c'est du rêve absolu, ces calèches, cette puissance des vice-rois. Même Pizarro n'a pas été aussi puissant que ses successeurs. Je parle du côté noble, hein. Il n'y avait que la cour d'Espagne qui arrivait peut-être à la cheville de la façon dont on pouvait vivre à Lima. Et au fond, si lui est un roi qui n'a pas de couronne, mais qu'il arrive à vivre en fait dans son palais de la Plaza Mayor, là, en plein cœur de ce Lima, là vous êtes au bord de la mer, vous êtes tout près du port de Callao, c'est une volonté bien sûr de créer un port afin de pouvoir faire partir toutes ces marchandises, l'argent maintenant qu'on commence à trouver dans les mines, et de le faire monter sur Panama. Panama en décharge, on repasse de l'autre côté, on remonte ça sur des caravelles, et tous les 6 mois vous partez sur l'Europe et vous revenez tous les 6 mois. Donc le choix de Lima est tout à fait logique, c'est pour cela qu'on abandonne Cusco. Et il tient ce nouveau rôle, puis ça je crois d'une façon assez étonnante. C'est quand même curieux qu'un chevalier soit capable tout à coup d'être un grand constructeur, un grand architecte. Et il a perdu tout le monde, ses frères ne vont pas rester avec lui, Hernando est effectivement rentré en Espagne, il a subi la vengeance de tous les amis d'Almagro. L'empereur va être tellement indigné par le crime d'Hernando, vous vous rappelez, hein, de cette façon d'avoir assassiné Almagro, qu'il va être lui aussi condamné. Il perd vraiment tout le monde, hein. Il va être condamné, il va finir ses jours dans un cachot en Espagne, le propre frère de Pizarro. Donc la vengeance impériale peut être terrible aussi. Gonzalo, ça c'est l'autre. Bon, lui alors c'est quelqu'un de spécial. Il n'est jamais rassasié d'aventure. C'est le vrai chevalier, il fait des croisades tout le temps, il a toujours envie d'avancer. Il va chevaucher partout. C'est lui qui va descendre l'Amazone, hein, faire des choses complètement folles du côté de Quito et du côté de ses jungles. Et puis il y a Juan. Juan, il est mort sur la forteresse de Sacsayhuaman. Pedro de Valdivia, son grand ami, elle est partie faire la conquête du Chili. Mais il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs de complot qui arrivent aux oreilles de Pizarro. Ce jeune Almagro, il s'agite un peu. Il y a des conciliabules. Mais oui, il y a des réunions. Il y a des révoltes qui se préparent. Bon, qui oserait m'assassiner, moi, Francisco Pizarro, dans mon palais? Mais pourtant, un jour de juin 1541, alors qu'il vient de recevoir quelques convives, il faut voir cette cour, il faut voir cette salle à manger, il y a des cris qui retentissent maintenant dans les murs du palais. On crie « mort au tyran », c'est la première fois qu'on ose depuis qu'il a mis le pied au Pérou. On dit « mort à Pizarro », et là, il y a 10 hommes armés qui font irruption dans une salle. Vous voyez la scène, vous êtes acculé contre la fenêtre, vous voyez ce vieil homme de 66 ans qui crie à la fenêtre et qui demande de l'aide. Il a en face de lui 10 personnes qui sont armées, et il va se battre seul contre ces 10 conjurés. Et il va leur tenir... Et il va leur tenir tête longtemps, il va leur mener la vie dure, parce que il est devant cette fenêtre, il appelle du renfort, personne ne bouge. Tous les gardes qui étaient là en dehors du palais auraient dû réagir, non, mais cette meute enragée qui est maintenant contre lui l'accule, et dans son énergie, il continue à escrimer. C'est fantastique, à 66 ans, d'arriver à se battre pendant des minutes et des minutes contre 10 personnes. Il est percé de coups, il saigne, il a de nombreuses blessures, il est farouche, il continue, il est droit comme une statue, c'est vrai, il a ce côté extrêmement... Quand on on le voit dans, en peinture, on s'imagine bien ce personnage à l'heure de la mort. Il défie encore tous ses assassins et tout à coup, il s'écroule. Et dans un râle, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est un Espagnol, c'est un chrétien, il réclame un confesseur. Ben, il a beaucoup de choses à dire avant d'entrer dans ce grand silence. Il n'y a personne. Personne ne bouge. Alors dans son sang, c'est dans son sang qu'il va faire, vous le voyez, sont ses dernières forces. Ce vieux Francisco Pizarro va tracer sur le sol une grande croix et il va agoniser. Oui, il va baisser maintenant ses lèvres vers cette croix et l'embrasser. C'est une fin grandiose, oui. Elle paraît arrangée, vous me direz. Ben non. Non, non, ça n'est pas une chanson de rêve. C'est pas l'histoire des chansons de gestes. Ce n'est pas un roman de chevalerie et pourtant, c'est la réalité. C'est un acte de chevalerie. Parce qu'au moment de la mort, au moment de ce dernier geste, où il y a ce symbole, ben pour moi c'est le contenu de toute la conquête. C'est le contenu de tout ce que pouvaient psychologiquement penser ces conquistadors. C'est la rencontre de la violence, c'est vrai, mais de cette religion qui les a poussés toujours en avant. On en a peut-être peu parlé, il y a l'or bien sûr, il y a le sang, mais il y a aussi la croix, il y a le Christ. Et au-delà de ce moment, de cette mort, de cet événement, ben je crois que c'est tout un peuple en fait qui s'exprime par ce moment. Parce que j'imagine mal quelqu'un comme Francisco Pizarro qui puisse venir de, ben d'ailleurs, que d'Espagne tout simplement. L'Espagne contre le Pérou Inca, ben, c'était une aventure qui devait finir comme ça.